Chapitre 19. Naomi Hallberg roule sur le ruban de bitume qui traverse la forêt de sapins d'Ursvik. Elle est seule dans la voiture de patrouille depuis presque une heure. Son collègue a dû partir au chevet de son cadet qui avait une forte fièvre. Elle a reçu un appel du central alors qu'elle était garée dans une ruelle à l'extérieur du centre-ville de Kista, à 5 kilomètres au nord de Stockholm. Elle était en train d'observer un jeune gars assis sous un escalier en béton, endommagé par l'humidité, le long d'une façade en tôle bleu clair. Son visage était maculé de plaies, et sa bouche tremblait tandis qu'il chauffait de l'héroïne dans une cuillère repliée. Une femme âgée était allongée à ses pieds, sur du carton aplati. Au moment de l'appel, l'homme venait de se brûler avec son briquet. C'était une alerte prioritaire. Elle a répondu, puis a foncé en direction de Kumling en écoutant les informations étranges que lui communiquait l'opérateur du central. Naomi s'engage à présent sur une route de gravier bordée de feuillus. Dans le rétroviseur, elle voit la poussière du chemin former un nuage derrière le véhicule. L'opérateur a demandé à Naomi de faire preuve d'une extrême prudence et de poser un tapis à clous en travers de la route de l'autre côté du bâtiment de la gare. 4 autres voitures de police sont en route. Mais elle arrivera la première. Seule. Et la première. Ce n'est pas une bonne combinaison, pense-t-elle. Elle se souvient des fois où elle a été submergée par la panique. Quand son entraîneur de foot avait baissé sa culotte dans le vestiaire. Elle ignore ce qui se serait passé si les autres filles n'avaient pas fait du bruit devant la porte à ce moment-là. Quand elle avait 20 ans aussi. Elle avait prévu d'aller faire la fête avec sa sœur et était en avance. Le petit copain de celle-ci l'avait accueillie, lui avait donné un cachet, et quand elle s'était réveillée, elle était dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Danderyd. Naomi éteint la barre lumineuse sur le toit de la voiture de police, freine et s'arrête devant une barrière. Elle sort et doit déplacer quelques grosses poubelles vertes sur le côté pour réussir à lever la barre métallique. Puis, elle se réinstalle au volant et progresse sur la route forestière chaotique qui longe les voies du métro. Les suspensions de la voiture cognent contre la chaussée et les buissons balaient les vitres. Lorsqu'elle distingue le bâtiment en béton entre les arbres, elle coupe le moteur. Elle n'a jamais utilisé le tapis à clous, mais elle se souvient à peu près de la manière dont il fonctionne. Il faut placer la lourde boîte métallique dans le fossé et tirer une longue guirlande de clous sur la route. « Il suffit juste de le faire », se dit-elle. Avec un sentiment de malaise grandissant, elle sort de la voiture, ouvre le coffre, enfile son gilet pare-balles, cherche la boîte et se rend compte qu'elle n'y est pas. Elle appelle le central pour les informer. On lui répond que ses collègues sont en approche et arrivent de l'autre direction. Elle doit les attendre. Naomi ajuste les bretelles de son gilet tout en marchant le long de la route forestière. De minces volutes de brume s'élèvent de la verdure réchauffée par le soleil du matin. Des métros passent régulièrement devant la station abandonnée au milieu de la forêt. Tout est resté tel quel depuis l'arrêt de sa construction il y a plus de 40 ans. Une structure rudimentaire pour les ascenseurs, des escaliers mécaniques et un hall pour la vente de billets. Seuls les morts descendent à Kumling. Elle se souvient de cette légende urbaine qui raconte qu'un train argenté circule la nuit sur les lignes de métro de Stockholm et transporte des morts. La plupart des variantes de l'histoire impliquent une jeune femme qui monte accidentellement dans le train argenté pour rentrer chez elle après une fête. Elle est retrouvée soit décapitée, soit errant, complètement folle, dans la station Kumling. Naomi s'arrête, défait la patte de sécurité de son holster, sort son arme de service, regarde ses ongles brillants autour de la crosse, puis la range. La forêt est silencieuse. La brume s'enroule au-dessus des fougères, se répand dans le sous-bois et autour du tronc d'un bouleau. La lumière du matin, d'un jaune éclatant, s'immisce dans les fissures du toit en béton de la gare. Comme dans un rêve, Naomi enjambe le passage découpé dans la haute clôture de barbelés. Elle finit son service dans 30 minutes. Dès que ses collègues arriveront, elle rentrera chez elle, dormira quelques heures, puis commandera une pizza qu'elle mangera dans son lit devant la télé. Elle se fraye un chemin dans les herbes hautes, monte sur le talus, traverse les rails, grimpe sur les quais et jette un œil dans le hall des arrivées qui donne sur les voies. C'est une expérience étrange de se retrouver dans cette gare à l'abandon, totalement dépourvue de carrelage, de décoration, de panneaux d'information et de publicité. Des flaques d'eau de pluie scintillent sur le sol en béton brut. Les seuls sons qui lui parviennent sont un bourdonnement électrique, une sorte de relais crépitant et l'écho de ses pas contre les murs nus. Naomi se dirige vers les escaliers qui mènent au guichet. La porte juste devant elle est couverte de graffitis et lui rappelle un tunnel hanté de fêtes foraines. Elle est sur le point d'oublier la raison de sa présence ici lorsqu'elle perçoit des mouvements un peu plus loin sur la plateforme, presque entièrement masquée par une cloison. Les mains tremblantes. Elle déverrouille la sûreté de son pistolet et va se coller à un des murs afin d'avoir une vision plus large. Elle entend comme des bourdonnements venant des rails sur la gauche. La surface des flaques d'eau se met à onduler. Le vrombissement s'intensifie lorsqu'un train approche. De la poussière et des papiers sales sont projetés en apesanteur au-dessus du sol. Elle s'avance vers le bord de la plateforme, élève son arme au moment où le train passe en trombe. Une bâche en plastique grise claque derrière la cloison. Le souffle d'air fait voler ses cheveux sur son visage, lorsqu'avec une boule de panique dans le ventre, elle approche son doigt de la gâchette. Werner Zanden est assis à l'étage supérieur du sauna. Il transpire abondamment et ses cheveux sont si chauds qu'il ne peut pas les toucher. La camionnette garée sur la route forestière appartenait à un homme qui accrochait des panneaux de signalisation pour une course d'orientation. Werner a échangé quelques mots avec lui. Il fait si chaud qu'il lui est presque impossible de respirer. Il descend, pousse la porte du sauna et sort. Quand il arrive dehors, son corps est enveloppé d'une brume de vapeur. Son visage et ses épaules sont rouges et de la sueur dégouline le long de sa poitrine et de son ventre. Il chausse ses lunettes, regarde l'heure, remet son alliance et quitte le vestiaire. Il aime beaucoup se promener seul dans la grande salle des bains destinée aux hommes, marcher le long des piliers, passer devant les nombreuses portes des cabines, descendre l'escalier et traverser la cour de pins et de rhododendrons. Le corps encore brûlant, Werner sort dans l'air matinal et regarde la baie scintiller devant lui, un sourire de contentement aux lèvres. Il reste un moment immobile à profiter de la vue. Le large escalier qui descend directement dans l'eau est bordé de deux tours anguleuses aux boiseries couleur vanille et d'un trampoline. Du côté des bains des femmes, on entend les cris stridents de quelques mouettes. Hier, la température de l'eau était de 15 degrés, selon les chiffres affichés dans la vitrine de la billetterie. Werner descend l'escalier et entre dans l'eau. La surface froide se transforme en cercle brûlant autour de ses cuisses avant qu'il ne plonge. Il réalise trop tard qu'il porte encore ses lunettes. Elles disparaissent dans l'obscurité, parmi les bulles d'air tourbillonnantes, lorsqu'il brise la surface de l'eau. Il nage quelques mètres jusqu'aux bouées blanches, cherche ses lunettes en vain, puis remonte les marches de l'escalier. Son corps est inondé d'endorphines lorsqu'il entre à nouveau dans la grande salle et qu'il referme la porte vitrée derrière lui. Werner se douche et se sèche. Enfile un pantalon de rechange, une chemise blanche en coton et des sandales. À présent, il a envie de prendre un café et son petit déjeuner avec Maya. La porte de sa cabine claque derrière lui. Il remonte l'enfilade de porte bleue, traverse l'entrée, passe le guichet et sort de l'établissement. Il a du mal à trouver le trou de la serrure sans ses lunettes lorsqu'il veut fermer la grande porte. Le sol est jonché de pommes de pin et d'aiguilles. Entre les grands pins, le petit port de plaisance se dessine comme une formation blanche et flottante. Il se retourne et voit un pick-up garé au bout du terrain. Une branche sèche se brise quelque part. Il se tourne vers la lisière de la forêt. Près d'un tronc d'arbre, il aperçoit une silhouette floue et ne peut s'empêcher de penser à l'homme insipide, le collectionneur. Werner commence à marcher vers le sentier quand il entend des pas rapides derrière lui. Il se retourne juste au moment où un coup de feu retentit. Soudain, son bras le brûle. Une silhouette nébuleuse, accroupie, glisse sur le côté. Le pistolet cliquette derrière lui. Une balle a dû se coincer dans le canon. Werner essaie de faire le point sur la situation. Il comprend que la balle a touché son bras droit. La douleur n'est pas plus intense qu'une crampe musculaire, mais le sang chaud qui s'écoule de la plaie et éclabousse ses sandales lui donne le vertige. Le pistolet émet à nouveau ce même petit bruit métallique. Werner fait demi-tour et se précipite vers l'entrée des bains, cherche de nouveau sa clé et ouvre la porte, les mains tremblantes. Les pas se rapprochent rapidement. Il entre, puis verrouille derrière lui. Il entend une nouvelle détonation. La porte explose et des éclats de bois se répandent sur le sol. Il se précipite vers la billetterie, se cogne la tête contre la vitre, puis court en direction des cabines. Il ne sait pas où aller. Ses jambes tremblent comme des feuilles. Il s'arrête devant une des cabines les plus éloignées, entre et ferme doucement la porte derrière lui. Quelqu'un a bien dû entendre les coups de feu. Il enlève son sac à dos, le pose sur le banc, commence à chercher son portable et, au même moment, il entend la porte d'une cabine un peu plus loin s'ouvrir avec fracas.